Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Merci. Vous êtes des dizaines de milliers à nous écouter. Merci pour vos étoiles. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos messages. The Craft Project était un podcast. C'est devenu un mouvement d'artisans d'art qui se découvrent, se réunissent, travaillent et rêvent ensemble. Je suis fière, je suis honorée, je suis pleine de force et de courage pour continuer. La saison 2 tiendra le cap en partageant des destins inspirants d'artisans d'art, bien sûr, mais aussi de personnalités créatives qui habitent leur vie et leur métier. Du tailleur de pierre au créateur de parfums, du ferronnier d'art à l'architecte, de la jeune dinandière à la podcasteuse féministe. Cette année, je continue à écouter, guidée par la passion et la créativité. Continuez à m'écrire sur Instagram, @RaphaelMétiersRares. La meilleure façon de faire connaître un podcast, c'est de le noter sur iTunes et d'en parler autour de vous. Merci à Connaissance des Arts et au ministère de la Culture de relayer The Craft Project. Merci à chacun de mes invités de leur confiance. Merci à Philippe Calvérac pour la qualité de son travail de montage et de mixage. Merci à Pierre Salagnac d'accompagner et de mettre en image ces moments rares. Je suis Raphaël Métiers-Rares et aujourd'hui, j'interroge Victor Guédy. Victor Guédy est tailleur de pierre, compagnon du devoir, secrétaire de corporation. Victor Guédy a une formation de philosophe. Après un tour de France initiatique, sa quête de liberté et de vérité l'a mené vers la vie manuelle et spirituelle d'un tailleur de pierre. Il promène ses questions dans la matière, dans son rôle de meneur d'hommes, dans son investissement au service des métiers d'art. Érudit et concret, innocent et sage, fragile et puissant. Bienvenue dans la tête d'un tailleur de pierre. Bonjour Victor Guédy.
Bonjour Raphaël.
Elle a commencé comment votre vie d'artisan ?
Elle a commencé un peu par hasard, à 21 ans.
Voilà. Oh là là, c'est tard ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Vous ne faisiez rien de vos mains ?
Si, je faisais de la musique avec mes mains et je bricolais un peu de calligraphie dans mon coin, des choses comme ça.
Pas d'artisans autour de vous ?
Pas d'artisans autour de moi, plutôt des traces d'artisans et puis des musiciens dans ma famille.
C'est quoi une trace d'artisan ?
C'est des souvenirs ou des indices que j'ai pu voir ou redécouvrir après en y repensant, que j'ai découvert quand j'avais 15 ans, 16 ans, 14 ans. C'est des bouts de cailloux vus dans des musées, c'est une petite gravure de Saint Thomas qu'avait ramené mon cousin de Valence, des choses comme ça.
Alors à 21 ans, qu'est-ce qui s'est passé ?
Qu'est-ce qui s'est passé à 21 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé avant, en l'occurrence ? En fait, j'ai été en fac de philosophie pendant 3 ans, après mon lycée. Et c'est plutôt autour de 19 ans que je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire quelque chose de manuel et que ma place n'était pas en philosophie ou que je ne me destinais pas du tout à vivre dans un milieu universitaire, mais bien plutôt à mettre en pratique la philosophie ou à écouter ce que la philosophie avait à me dire.
Et la philosophie, elle vous disait ça ? Elle vous disait « fabrique, fais ».
La philosophie, elle m'a permis de me recentrer sur moi-même et plutôt de voir ce que j'avais besoin de faire. Ça a été un peu plus tôt dans ma vie. Mes années d'études ont été une sorte de pause philosophique qui m'ont permis de chercher ce qui pouvait être le mieux pour moi, pour être homme. Voilà. J'étais un peu empoté, on va dire.
Ouais.
Pas empoté de l'imagination ou de l'intellect, mais manuellement, vraiment, je savais pas tenir un marteau, ce genre de choses. Disons que je savais pas du tout bricoler, quoi. Et j'avais le besoin énorme de me sentir homme, mais dans ce que ça a d'humaniste. Et pour moi, ça allait forcément avec une espèce de réenracinement dans une vie proche des matériaux ou proche d'une vie rurale que j'avais jamais eue parce que j'ai toujours grandi en banlieue parisienne ou à Nantes, enfin dans la ville. Et j'avais besoin de retrouver un peu ce contact avec le monde concret, avec la terre, et avec toute la transmission et le rapport qu'ont les hommes entre eux dans ces milieux-là.
Donc c'est une démarche intellectuelle volontariste qui vous a amené à la matière et au savoir-faire. Vous êtes allé
Alors,
le chercher là où il était, mais il n'était pas autour de vous. Il n'était pas...
moi, je l'intellectualise un petit peu comme ça, mais ce qui est marrant, c'est que je peux en donner une explication très intellectuelle. Il y a beaucoup de gens qui disent que j'intellectualise tout, etc. Mais je pense que, en fait, tout ça s'est fait de manière hyper intuitive. J'ai aucune idée de la raison pour laquelle je suis parti en taille de pierre, par exemple. Je ne sais pas du tout
Mais c'était
pourquoi.
évidemment ma prochaine question. Pourquoi la pierre?
Pourquoi la pierre? Eh ben, j'en sais rien, pourquoi la pierre? Je ne sais pas du tout. La pierre me fascine et je parlais tout à l'heure d'indices. Tous les indices que j'ai pu découvrir étaient des indices en pierre. Je me rappelle, par exemple, d'être allé dans une abbaye en Vendée où il y avait un mascaron sculpté, fait par un compagnon de l'Union Compagnonnique. Et ce mascaron me parlait vachement. C'était une abbaye dans laquelle Rabelais avait séjourné. Et ça me parlait aussi. Il y avait une ambiance médiévale, une ambiance renaissance qui me parlait vachement. Le matériau me parlait, son grain me parlait. Voilà. Il y a tout un rapport aussi aux églises et aux monuments historiques qui m'a toujours fasciné. Et la pierre porte tout ça.
Mais alors justement, à 21 ans, vous êtes dit, je veux être dans la matière, je veux devenir un homme qui fait. Par quoi vous avez commencé? Vous êtes allé voir qui?
C'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est que tout ça s'est fait complètement par hasard. Je cherchais à 19 ans quelque chose qui me permettrait de mettre en pratique mes mains, de faire quelque chose de ma vie, d'être dans l'action et plus dans la contemplation comme je l'étais avant. Et ce qui m'attirait était tout ce qui était vieux. C'est assez paradoxal, c'est assez marrant, mais avec une espèce d'anti-modernisme que j'ai appris à nuancer, je voulais vraiment travailler on va dire d'abord dans la restauration. Et au début, je voulais travailler dans le livre ancien. Et le livre ancien me parlait beaucoup, parce que ça rajoutait déjà quelque chose d'artisanal et de beau dans la matière, dans les papiers, dans la reliure, à un savoir intellectuel. Ça mettait un peu la théorie et la pratique ensemble. Et j'ai fait un stage aux archives départementales de Saint-Lô pendant une semaine. J'avais aidé une libraire de livres anciens du quartier latin au salon du livre ancien au Grand Palais. J'ai fait ce genre de choses. Et en fait, je me suis ennuyé à mourir. Je me suis rendu compte dans le livre ancien qu'il y avait un milieu pour lequel j'étais pas fait en tant que professionnel. Et dans les archives départementales, je me suis cru mourir d'ennui. Vraiment, c'était pas du tout fait pour moi, trier des notes de juristes du XVIIIe siècle. C'était un cauchemar. J'ai fait une semaine de stage aux archives et une semaine après, je suis allé faire un stage avec un tailleur de pierre dans la Sarthe et c'était génial. Là, c'était d'un coup toute la mise en pratique de ce que je cherchais.
À quoi vous lui avez servi? Qu'est-ce que vous saviez faire, vous qui arriviez de votre licence de philo dans son atelier de tailleur de pierre? Vous saviez même pas tenir un marteau?
Alors, ce qui s'est passé, déjà, c'est que c'était dans un cadre qui permettait aux énergumènes de l'université comme moi de pouvoir toucher à des outils et à des ciseaux, parce que c'était un stage d'été qui se faisait avec des gens de tous horizons.
D'accord, d'initiation en fait.
Ouais, c'était un stage d'une semaine d'initiation. On a refait tout un réseau gothique pour un particulier. J'ai logé là-bas sur place. On dormait à même le sol, le tailleur de pierre, un formateur là, qui s'appelle Philippe Giraud. Et moi, et ça a été un moment super parce qu'on se réveillait le matin tôt, on allait faire du sport ensemble, ensuite on travaillait toute la journée avec tout le monde. Et puis le soir, je me rappelle de lui qui jouait des pièces de Bach à la flûte baroque avant de s'endormir, et c'était au milieu des araignées, à même le sol, c'était assez génial. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier pendant ce stage d'initiation? Est-ce que là, vous vous êtes dit, ça y est, c'est mon métier?
Franchement, je me rappelle plus trop ce que je me suis dit, je me suis juste senti à ma place. En fait, je pense que je voulais déjà faire ça, j'avais un petit peu cette intuition-là, et là, le stage avait en gros concrétisé ça, quoi. Le
D'accord.
stage était plutôt une manière de tester mes intuitions et de la prouver aussi à mes parents. Voilà.
Ça leur a fait peur, vos parents, ce virage en fait à 180 degrés?
Je sais pas trop ce qui leur a fait le plus peur dans toute mon adolescence, de mes 16 ans à mes, on va dire 21 ans. Je sais pas ce qui a été le plus compliqué. Je pense que mes années les plus troubles ont été celles, mettons, de 16 à 19, quoi. Je suis arrivé en fac de philo avec vraiment une espèce de vision hyper pessimiste du monde, hyper déterministe, c'est-à-dire où on se représente soi-même sans aucune liberté. Et j'ai vraiment découvert, avec un professeur, avec certains auteurs, j'ai redécouvert la liberté qu'on peut avoir soi et la valeur de la joie. La joie de l'action et de tout ce qu'on peut en retirer de profondément beau. Alors que je baignais dans une littérature tragique, pessimiste, déterministe, qui a aussi toutes ses vérités, qui dit plein de choses aussi très belles, mais qui est aussi adoré par les adolescents de tout poil dont j'étais le premier, quoi.
Et donc c'est ça que vous avez prouvé, c'est votre liberté à vous d'inventer votre vie.
Ouais, exactement.
Comme vous la sentiez.
Je sais pas, j'ai redécouvert en fait la signification de la liberté quand j'avais 19 ans. C'est vraiment un truc qui s'est passé où d'un coup je me suis rendu compte que je pouvais être parfaitement libre et parfaitement libre dans les engagements que j'allais prendre et que je pouvais devenir complètement l'homme que je voulais et que si je le voulais, je pouvais absolument devenir n'importe quoi. Il y a une espèce de barrière qui s'est brisée. Aussi parce qu'il y a une, c'est assez curieux, il y a eu une rupture sentimentale au même moment et il y a eu un moment donné où dans ma vie j'ai eu l'impression qu'on m'ôtait des chaînes et ça a été une espèce d'un coup de découverte de la volonté de vie comme ça qui permet d'avancer et de conquérir tout ce qu'on a envie de conquérir.
Et alors donc cette matière, ce savoir-faire, la taille de pierre, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? C'est quoi ce métier? C'est quoi être un tailleur de pierre aujourd'hui? Parce qu'on imagine un peu ça au Moyen-Âge, très bien, on fait des cathédrales, mais aujourd'hui c'est quoi un tailleur de pierre?
Un tailleur de pierre, c'est quelqu'un, je pense, qui est très proche de sa matière, déjà. C'est une matière qui est hyper forte, qui est hyper froide, qui est compacte, dans laquelle on entre, dans laquelle on travaille la plupart du temps que par retrait, c'est-à-dire en enlevant de la matière. C'est pas du tout comme de l'argile où on peut rajouter, ou comme du métal où on joue à l'alchimiste. La pierre, c'est une espèce de roche qu'on taille, qu'on taille, qu'on taille, et puis qu'on arrête de tailler une fois que la forme est obtenue. Et ça attire des gens vraiment spécifiques. Voilà,
y a quelque chose. Spécifique comment? Comment on reconnaît un tailleur de pierre? Parce que ici, on a compris dans le podcast comment on reconnaissait un graveur déjà, des obsessionnels. Et un tailleur de pierre, est-ce qu'il y a des qualités de tailleur de pierre?
Je pense que les tailleurs de pierre sont patients.
Ouais.
Et les tailleurs de pierre ont tous un peu une fibre spirituelle, je pense. Sur le Tour de France, chez les compagnons, ils sont toujours vus comme des poètes. Et c'est super drôle parce que l'habit fait toujours le moine, c'est toujours vrai. On a beau avoir tous les profils et puis des tailleurs de pierre qui sont pas du tout poètes, etc. Je pense qu'ils ont tous quand même une vraie sensibilité vis-à-vis du bâti ancien et de ce genre de choses. Ils sont pas en train de couler des banches de béton toute la journée pour construire des supermarchés. Ils travaillent sur des, à partir d'un matériau naturel le moins transformé possible. Et tous les tailleurs de pierre ont, cultivent un petit peu cette particularité intellectuelle ou poétique ou spirituelle. Voilà, dans tous les domaines. C'est assez, assez amusant. On se retrouve toujours avec un tailleur de pierre qui a été musicien ou qui a été en études de sciences humaines ou alors un autre qui va être hyper attiré par le bouddhisme, un autre par une autre spiritualité. Enfin, il y a plein de profils différents comme
ça. Et c'est la pierre qui amène ça ou c'est le geste qu'on fait sur elle?
C'est les deux, c'est toujours les deux. Mais le matériau en lui-même a quelque chose d'incroyable parce que de toute façon, toutes les spiritualités nous le prouvent. Il y a toujours des pierres, dans toutes les religions, il y a des pierres. Il y a un mot hébreu qui s'appelle le Bethel. Ça désigne toutes les pierres dans lesquelles Dieu réside. Et il y a ça dans toutes les religions. Il y a la pierre sur laquelle Jacob dort. Il y a la pierre de la Mecque autour desquelles les musulmans pérégrinent, etc., etc. Tous les autels de toutes les églises sont en pierre. Il y a tout un côté aussi hyper tellurique, tu sais, qui d'un coup... renoue avec le monde celtique, qui est assez incroyable. Les dolmens, c'est une espèce d'énigme de tailleur de pierre qui est fascinante.
Et justement, vous, quand vous touchez un menhir ou un dolmen, vous êtes connecté à ça? Il y a quelque chose qui circule?
Je sais pas. Je sais pas trop. J'arrive pas à tricher avec ça et à dire que je sens une énergie folle. Je suis pas un lithothérapeute convaincu. Pour autant, je me balade toujours avec des bouts de pierre et je passe mes journées professionnelles entourées de blocs de carrière gigantesques. C'est ça qui est assez curieux. Il y a quelque chose de paradoxal.
Ça, c'est une question que je vous pose, mais je connais la réponse. Vous êtes très croyant vous-même?
Oui, oui, je le suis. C'est en dents de scie. C'est assez curieux. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une ambiance à la fois... pas du tout religieuse et en même temps très religieuse par certaines parties de ma famille. Il y a eu des gens très pieux dans ma famille. Mon grand-oncle était prêtre, mais était surtout un organiste incroyable. Enfin, c'était le maître de chapelle de Notre-Dame de Paris. Et cette personne-là a toujours été une espèce de modèle dans ma vie, par la sérénité qu'elle dégageait, et par la profondeur, et puis par ses gestes, parce que je l'ai entendu jouer de la musique, c'était c'était grandiose, c'était vraiment quelqu'un de profondément doux, et je pense qu'il y a une espèce de témoignage humain dans la pratique intellectuelle et manuelle d'un instrument de musique qui m'a vachement inspiré, qui nous a tous inspirés dans ma famille. Et c'est plus cette flamme-là qui l'habitait, cette religiosité-là à laquelle je me sens connecté. Son témoignage de foi me parlait énormément. Et donc il y a eu dans ma vie des moments très compliqués pour ma vie de foi, et des moments où ça a été très limpide. J'habitais en Écosse pendant un an, c'était une espèce de période incroyable. C'était mon tour de France chez les Compagnons, ça a été épique. Enfin, il y a eu des moments vraiment hyper forts, hyper solitaires, et mon année entière en Écosse a été superbe, parce que j'étais dans la solitude la plus complète. Ça a été ma retraite. Je voulais partir au nord, j'ai été le plus au nord possible, complètement isolé de tout le monde. Et ça a été absolument génial. Et là, il y a eu des moments spirituels hyper forts. Ouais.
Alors justement, on a commencé à parler un peu des Compagnons, mais dans cette quête de liberté, ça paraît paradoxal comme ça de l'extérieur que vous ayez embrassé une communauté qui, de l'extérieur, paraît un peu stricte, normée, organisée. Et c'est là que vous êtes allé vous réfugier, c'est là que vous êtes allé exprimer votre liberté. C'est intéressant.
Ouais, c'est hyper intéressant, et c'est surtout très riche d'enseignements, je pense, parce que je pense avoir compris à 19 ans quelque chose qui me sert encore et qui me servira toute la vie. C'est une vraie conception juste de la liberté. J'étais à la fac pendant 3 ans, et à la fac, je n'ai eu aucun repère. Ça m'a sûrement servi pour fonder des choses très profondes, mais à la fac, j'étais un peu laissé pour compte, aussi parce que je me laissais pour compte, mais... J'avais besoin d'un cadre, d'un enseignement qui soit prodigué vraiment de maître à disciple, avec une vraie discipline, et j'ai senti très tôt que la liberté, elle s'exprimait au sein d'un cadre qu'on choisissait. Et ça, il y a déjà Baudelaire qui l'avait théorisé à propos de sa poésie. C'est pas une posture, c'est pas quelque chose d'incongru que de dire ça. À la fac, j'étais vraiment dans une espèce de liberté désordonnée où je pouvais faire tout ce que je voulais, et au final, j'ai rien fait du tout. Et j'avais des professeurs, notamment un professeur allemand qui était absolument génial, qui s'appelle Patrick Lang, qui l'est toujours, j'imagine, et qui défendait vraiment cette espèce d'enseignement très exigeant, de maître à disciple, et lui rêvait de ces vieilles universités anglaises où un maître professait à ses quelques disciples assis autour de lui, etc. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là que j'ai cherché et que j'ai complètement trouvé chez les Compagnons. La première fois que je suis arrivé chez les Compagnons, je savais très bien pourquoi j'y allais, et j'y ai trouvé exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire une vie en communauté avec une règle qui nous structurait, et puis une liberté qui s'exprimait avec des règles à respecter, et au sein de ces règles-là, on était hyper heureux, et tous ensemble surtout.
Et alors justement, tous ensemble, on a podcasté Pierre-Yves Guénec, qui est votre frère compagnon, mais un peu votre frère en vrai, en réalité. Vous êtes rentrés dans le compagnonnage ensemble, vous êtes guidés l'un l'autre ?
Ouais, c'est assez drôle, parce qu'on a fait les 400 coups ensemble de 16 à 21 ans. On s'est rencontrés via la musique, on a fait de la musique ensemble, on a fait plein de choses créatives, dans le bien comme dans le moins bien. Et on est parti ensemble sur le tour, mais même dès nos 18 ans, en fait, on a eu des parcours différents. Moi, je suis parti à la fac pendant 3 ans, lui, il est parti aux Beaux-Arts à Paris, puis à Nantes, etc. Mais on est parti ensemble chez les Compagnons, ouais. Et on s'est toujours un peu suivi. On n'a pas fait de ville ensemble, et on n'a pas fait de stage ensemble. On s'est toujours suivi un peu d'une année sur l'autre. Voilà. Il était en Angleterre une année, moi, je suis parti quasiment au même endroit une année après, etc. Un peu comme ça pour toutes les régions, ouais.
Jusqu'à vous retrouver aujourd'hui au sein des ateliers Saint-Jacques.
C'est ça. Exactement. On s'est retrouvés en formation ici, l'année où moi j'ai fait mon chef-d'œuvre ici, et ça a été super, ouais. J'aime bien parler de mon tour de France parce qu'il a été hyper rocambolesque. Je voulais aussi absolument, quand j'étais sagement sur les bancs de la faculté, avoir un peu une vie d'aventure telle qu'on peut l'avoir dans des livres, etc. J'avais vraiment envie de ce côté Tour de France de carte postale où on part à l'aventure sur les chemins et où on vit plein d'expériences, etc. Alors notre Tour de France, il a vraiment un cadre et une structure, mais il y a quand même 1000 rencontres, 1000 expériences qui le rendent vraiment fun. Moi j'ai commencé en étant à Chinon, donc c'était vraiment en Touraine, je connaissais même pas cette région. Et c'était absolument merveilleux parce que j'ai travaillé dans une entreprise où on allait sur les chantiers, on voyait vraiment des beaux chantiers sur des châteaux, des choses comme ça. Ensuite, je suis parti à Troyes et là, c'était pareil. Chaque chantier, c'était une visite patrimoniale. Ensuite, je suis parti en Écosse pendant un an et là, j'étais en déplacement dans toute l'Écosse. J'ai travaillé sur des îles pas possibles en dormant en caravane. On travaillait, je me rappelle, 12 heures par jour et puis ensuite, on dormait. Je dormais avec des Irlandais dans une caravane, mais vraiment en face d'eux, quoi. Il n'y avait pas de frontières et on travaillait 10 jours d'affilée et ensuite on revenait 4 jours à terre. Et donc c'est 10 jours d'affilée qu'on travaillait le vendredi, le samedi, le dimanche. Ça paraissait normal, la semaine était répartie comme ça. Mais eux, le vendredi soir par exemple, ça restait la fameuse Friday night. Et donc tous les vendredis, ils faisaient la fête comme s'ils étaient sur un week-end. Et ils faisaient la fête jusqu'à 8h du mat, quoi. Alors ah ouais. qu'on était censé travailler le lendemain à 8h du mat. Et moi j'étais à 1m52 sur la banquette d'en face et ça a été comme ça pendant tout le séjour. Ensuite ils ont eu un accident avec le camion, ensuite on a failli louper le ferry, on en a loupé un premier, enfin ça a été incroyable, hein. C'était à la fois super navrant en y étant et en même temps ça a fait des histoires géniales à raconter, quoi. Donc il y a eu ça, ensuite je suis rentré en France l'année d'après. Et j'ai pu travailler sur le phare de Cordouan aussi grâce à un de mes anges gardiens, là, Morgane Robin. Le phare de Cordouan, il est dans l'estuaire de la Gironde. Il est à 10 km des côtes, donc on embauchait tous les lundis en hélicoptère et on dormait sur le phare pendant toute la semaine.
Incroyable.
Ça, c'était vraiment génial et on y a dormi pendant tout le mois de janvier-février, qui est la période des tempêtes. Donc il y avait toutes les tempêtes, il y a eu un soir où il y a des vagues qui ont décroché une grosse partie de notre échafaudage avec les bâches qui ont commencé à s'envoler, il a fallu... Alors là j'étais ravi, j'étais en plein dans le romanesque que je voulais vivre. Je sais pas si j'en étais à la hauteur, peut-être que mes anciens collègues en écoutant le podcast vont être navrés d'avoir, en se rappelant la réalité de la situation. En tout cas ça m'a fait des souvenirs incroyables. L'année d'après, j'ai été chez une dame qui était une paysanne de Saint-Onge qui était adorable, qui s'appelait Arlette, qui avait 86 ans, qui avait un amour de ses bêtes impressionnant. On était 5 jeunes chez les compagnons chez elle. Il n'y avait pas une journée qui n'était pas rocambolesque, quoi. C'était super drôle parce que cette dame avait une vie profondément tragique avec des drames ruraux. On lui avait brûlé ses hangars. Ensuite, il y avait une espèce de vieille sorcière qui était venue un soir pour essayer de lui repiquer des outils avec une fausse lettre qu'elle avait écrite. Enfin, c'était assez génial. Et l'année d'après, je suis parti en Lozère, où là, c'était une année de dingue à faire de la pierre sèche dans les Cévennes, dans les gorges du Tarn, dans les gorges de la Jonte, etc. On s'est retrouvé à graver des menhirs. Enfin, c'était assez...
À graver des menhirs, on a le droit de faire ça ?
C'était pas un menhir qui était fait, en fait, on avait fait un monument aux morts pour une petite commune et on s'est retrouvé à graver du coup.
Ah oui, vous avez fabriqué un menhir.
On a fabriqué un menhir, ouais, sur lequel on a gravé plus de 1000 caractères pour un monument aux morts. Enfin, c'était. Puis plein de choses comme ça. Il y a eu tout un tas d'anecdotes avec la neige en Lozère, j'ai eu un accident de voiture, pas possible, enfin, c'était.
Un tour de France, quoi.
Ouais, un tour de France, c'était épique.
Et vous écrivez un peu vos aventures ? Vous avez un journal ?
Ouais, je l'ai eu pendant un bon moment. J'avais fait même pas mal de récits photos, etc. Et puis, j'ai un peu faibli. Donc il faudrait que je prenne le temps de le faire, ouais. De le refaire calmement. Je me rappelle pas mal et j'ai pris beaucoup de photos de tous ces moments-là. Le Tour de France, c'est une expérience hyper forte qui est constitutive, si vous voulez. C'est vraiment le moment où, pendant 7 ans à 10 ans, on se construit en tant qu'homme et en étant vraiment replié sur soi-même. C'est vraiment vu comme ça. C'est un moment où on est tout à notre métier. Et c'est une expérience dans une vie qui est hyper forte, qui est capitale. Je pense que c'est une chance immense de pouvoir encore vivre ça aujourd'hui. Je pense que c'est des choses qui, depuis les philosophes du XVIIIe siècle, on vit plus, où on pouvait comme ça jouir de solitude pendant de longues années, être en introspection pour ensuite revenir à la cité, etc. On a la chance de pouvoir vivre ça. Et après, ça se calme. Et puis, c'est aussi parce que moi, je sors du Tour de France depuis 6 mois. Ça fait même pas un an que j'ai fini mon Tour de France. Et je suis encore quasiment encore dessus parce que j'ai des responsabilités au sein des compagnons qui incombent encore. Donc c'est... Et il y a aussi le fait que notre Tour de France, c'est une espèce de voiture de course de la formation. On avance à une vitesse qui est complètement dingue. J'ai l'impression d'avoir travaillé 15 ans en 7 ans. On travaille tous les soirs. Je sais que Pierre-Yves et moi, on a travaillé énormément d'arrache-pied. Même après notre chef-d'œuvre, on a encore bossé comme des malades. Et je pense que ça nous vieillit vachement vite. Le Tour de France, c'est une espèce de soleil auprès duquel on mûrit super rapidement. Et le chef-d'œuvre, qu'on choisit de faire, quand on fait un travail conséquent ou vraiment long, enfin, moi, je pense avoir fait un beau travail qui m'a pris plus de 1000 heures, ça m'a pris un an et demi, on va dire, vraiment de A jusqu'à Z. J'ai l'impression d'avoir eu la chance de faire ce que d'autres ou d'autres artisans ou ce qu'on peut lire dans, par exemple, dans Narcisse et Goldmund de Hermann Hesse, là. J'ai eu la chance de faire à 26 ans ce que d'autres font à 70, peut-être. Je parle pas en qualité de travail parce que évidemment que mon travail n'est pas celui d'un maître artisan de 70 ans, mais la chance de la structure dans laquelle on est qui nous permet de faire une pièce de maîtrise et de prouver ce qu'on vaut à 23 ans, par exemple, à 23 ans, à 25 ans, c'est une espèce de chance incroyable qu'on a de la chance de pouvoir vivre ça et je pense que ça nous mûrit d'un coup très vite. Ce qui veut pas dire qu'on est arrivé, évidemment. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de fausse humilité à avoir vis-à-vis de ça. C'est simplement une expérience hyper forte qu'on vit très jeune et qui nous rend homme hyper vite.
Alors justement, c'est quoi votre chef-d'œuvre ?
Alors j'ai fait un maître-autel pour la crypte d'un monastère dominicain qui fait 2 mètres de long par 1 mètre de haut sur 1 mètre de profondeur, qui est en pierre dure de la région de Lyon, qui est un petit peu beige rosé, qui a toute sa face avant de Bombay, qui n'est pas un grand travail de stéréotomie, c'est-à-dire vraiment de traits, de tracés techniques, presque d'ingénierie de la taille de pierre, mais qui est plutôt une espèce de recherche sur toutes les finitions, sur la gravure lapidaire, sur la dorure, sur la marqueterie, les incrustations de laiton dans la pierre, etc.
Et ça, toutes ces techniques, vous les maîtrisez vous-même ?
Bah ouais.
Un tailleur de pierre fait tout ça. Il est à la fois tout ce que vous venez de dire et que j'ai pas retenu.
Tous les tailleurs de pierre ont un peu leur profil. C'est ça qui est superbe chez les compagnons et c'est ça que j'y ai trouvé aussi. C'est la complémentarité de chacun. On a des tailleurs de pierre qui sont des ingénieurs dans l'âme, qui sont incroyablement intellectuels. On en a d'autres qui sont d'excellents manuels, d'autres vraiment des meneurs d'hommes sur chantier, d'autres qui ont vraiment des profils de sculpteurs. Et puis voilà, moi je sais pas exactement, j'ai recherché un petit peu à imiter ou à voir ce que je trouvais d'innovant chez les serruriers, chez ceux qui travaillent le bronze, le métal, dans un petit peu le design contemporain. J'ai essayé de faire des choses un peu dans cet esprit-là, en pierre. Voilà.
Alors justement, c'est quoi l'innovation dans la taille de pierre ? Est-ce que qu'a apporté la révolution digitale à votre métier ?
Elle est en train de l'apporter parce que notre métier évolue avec sa temporalité qui lui est propre. La pierre est lente, alors tous les tailleurs de pierre évoluent un peu avec des temps... avec des temps géologiques. On a une espèce d'inertie de notre matériau comme ça qui nous met en mouvement lentement. Mais alors, une fois qu'on est lancé, c'est dévastateur, j'espère. Mais qu'est-ce que c'est la modernité dans la taille de pierre ? Eh ben, c'est l'utilisation actuellement des pierres naturelles et puis des marbres dans l'archi d'intérieur, dans l'architecture tout court, en exploitant tout le potentiel, on va dire, décoratif, d'aspect, de finition, qui était avant simplement des coups d'outils, des traces de façonnage, ce genre de choses. En fait, je pense que c'est aussi un regard différent sur la pierre. Il y a une manière de voir le matériau, de découvrir toute sa beauté, son côté profondément brut, toutes ses possibilités, et ça a mille variétés. C'est en train de se développer énormément dans le mobilier, dans l'objet, dans le luminaire. Voilà, je ne sais pas exactement jusqu'où ça va aller, je ne sais pas exactement où s'arrête la taille de pierre, où commence la marbrerie, où commence l'ébénisterie exactement. Enfin, tout ça est un peu en train de se mêler, c'est hyper intéressant.
Et vous travaillez vous-même sur les formes, sur le design, sur cet aspect plus créatif dans la façon dont on pense les objets ?
Au sein des ateliers Saint-Jacques, pas vraiment, parce qu'on met avant tout à disposition des solutions techniques pour nos clients, qui sont des décorateurs, des architectes. Et j'essayais plutôt de le faire pour moi ou avec Pierre-Yves.
D'accord, c'est quelque chose que vous développez pour vous à côté.
Ouais.
Et vous avez appris tout seul à utiliser les outils de création, à, je sais pas, faire des plans 3D, vous dessiner. Comment vous faites ?
Il y a des outils techniques qu'on nous apprend sur le Tour de France qui sont vraiment les héritiers de nos savoir-faire traditionnels, quoi. Quand on apprend à dessiner des éléments d'architecture, on apprend à les dessiner à la main, puis en 2D par ordinateur, puis en 3D. Donc ça, après, on peut les remettre au service de nos créations. C'est ce que font, je pense, à peu près tous les créateurs du monde entier. Et puis après, il y a des choses que je fais comme ça, où justement, je me laisse des zones de non-droit où je travaille comme j'ai envie et sans aucune contrainte. Alors, je travaille de la sculpture en argile ou de la calligraphie, la capitale romaine, et là, Là, je demande de conseils à personne et je veux surtout pas qu'on m'en donne, c'est juste ma zone, mon défouloir.
De créativité.
Mon défouloir manuel, ouais.
Est-ce que la philosophie est toujours présente dans votre vie ?
Ouais, elle l'est toujours, elle l'est toujours. Elle l'est moins intellectuellement, c'est-à-dire qu'elle elle m'a un peu laissé en paix. Je ne suis plus en train de tout intellectualiser comme je le faisais quand j'avais 18 ans.
C'est un soulagement, ça ?
Ouais, ouais, complètement. C'est exactement ce que je cherchais. Je cherchais juste à arrêter de regarder le plafond en ruminant. Et je pense que quand on a la chance de trouver sa place dans des métiers manuels, on a une chance immense parce que ça nous permet de nous délester l'esprit d'une certaine manière quand on travaille. Et ça, c'est incroyable.
Délester l'esprit de sa condition humaine ?
Non, pas de sa condition humaine, mais plutôt des mauvais aspects de la vie intellectuelle, de tout ce qu'il peut y avoir de parasitaire.
Ah, tout ça. Vous avez mal où le soir après une journée à l'atelier ?
Après une journée à l'atelier, j'ai mal aux reins. J'avais surtout mal, j'étais fourbu. Surtout fourbu, une espèce de douleur générale. Et je travaille plus dans les bureaux depuis 6 mois, alors maintenant j'ai mal au crâne.
Ça vous manque pas trop de toucher la matière ?
Si, ça manque pas mal. Ça manque pas mal. Après, dans la mesure où je n'ai pas connu que ça, et où j'ai quand même passé 3 ans à m'arracher les cheveux sur des textes de Kant et d'Aristote, je suis content de retrouver ça également, c'est un nouveau défi.
Est-ce que vous auriez aimé, en fait, qu'on vous propose d'approcher la matière plus tôt dans votre parcours de formation ?
Ouais, ça c'est évident. Que j'aurais peut-être pas eu le même chemin ou que les choses se seraient déroulées différemment si j'avais pu, dès même le collège ou le lycée, travailler manuellement, ouais. Ouais, ouais. Quand on lit des témoignages de gens, notamment des Scandinaves, qui ont pu expérimenter ce genre de choses assez tôt, je sais que par exemple Selma Lagerlöf raconte que quand elle était autour de ses 10 ans, à l'école, il faisait plein de choses, même avec sa famille, elle faisait de la couture, etc. Ça lui a donné, je pense, vraiment une espèce de confiance en elle et ça l'a simplement maintenue dans une humanité un peu complète, quoi. Moi, le fait d'avoir jamais fait ça jusqu'à mes 18 ans, sauf pour mes gribouillages calligraphiques ou de la musique ou des choses comme ça, c'était un peu se priver d'une dimension complète de l'être humain. Enfin, c'est évident, c'est les gens qui sont complètement déracinés, qui ne sont jamais allés à la campagne ou qui n'ont jamais, récolté cueilli des champignons, par exemple, il manque quelque chose, comme il manquerait un apprentissage de la musique ou de la danse ou ce genre d'expérience de vie.
Ouais, bien sûr. Alors, on est passé très vite sur les maîtres et les anges gardiens. Il y a des maîtres qui vous ont marqué et qui vous ont permis d'arriver là où vous êtes.
Ouais, il y en a eu, j'y ai réfléchi un petit peu en amont et j'en ai trouvé 3. Il y a eu ce professeur de philosophie qui s'appelle Patrick Lang et était celui qui était le plus rigoureux, quoi, simplement, enfin, à mon goût, qui était prof de philosophie de l'existence et qui était une espèce d'apôtre de la joie, de la liberté et qui se battait un peu contre tous les auteurs négatifs ou tragiques. Et lui était assez génial parce qu'il exigeait vraiment de nous des travaux soutenus. Il nous tannait pour qu'on les finisse à temps, sans désespérer, même si on essayait de prendre des chemins de traverse. Et puis, il m'a forcé à rester jusqu'à la fin de ma licence, alors que dès la moitié, je voulais partir. Donc, il y a eu cet homme-là. Ensuite, il y a eu Philippe Giraud, le tailleur de pierre, qui m'a donné le premier bel exemple de ce qui était pour moi un homme tel que je voulais un peu le devenir, ou en tout cas dans mon métier. Et puis ensuite, il y a eu mon premier responsable quand j'étais apprenti à Chinon, donc chez les compagnons. Je travaillais pas dans la même entreprise, mais tous les soirs, il nous donnait des cours. Et lui a fait beaucoup pour moi. C'était super parce qu'on venait pas du tout du même milieu. Et moi, j'arrivais avec toutes mes prétentions et tous mes préjugés et mes airs parfois un peu goguenards. Et je me suis pris des belles bâches et ça m'a fait énormément de bien. C'était vraiment super. Et à côté de ça, on s'est hyper bien entendu. On a travaillé ensemble vraiment autour de la pierre, de projets de pierre ensemble. Et il s'est démené pour moi, c'est-à-dire que moi je travaillais au début dans une entreprise qui faisait tout sauf de la taille de pierre, qui faisait beaucoup de béton, etc., sans rien enlever à la valeur de ses savoir-faire, c'était pas du tout ce que moi je voulais faire. Et lui, il travaillait dans une super entreprise, et au bout de 6-7 mois, parce qu'il voyait que je me démenais, que je travaillais tous les soirs, etc., il m'a fait embaucher dans son entreprise. Et ça m'a sauvé mon apprentissage, et il m'a même permis de rentrer dans l'entreprise d'après, quasiment, qui m'a après vraiment aussi donné des beaux outils professionnels, quoi. Donc je lui dois énormément et il s'appelle Morgane Robin et je suis toujours hyper reconnaissant de ça.
Ça, c'est un ange gardien.
Ah ouais, vraiment, pour le coup, ça m'a...
Et alors justement, à propos de milieu, dans votre milieu, celui dans lequel vous, vous avez grandi, c'est perçu comment d'être un artisan, d'être un tailleur de pierre? C'est quoi? C'est folklorique? C'est... comment on vous voit?
Comment on me voit? Je pense que c'est quelque chose qui était un peu inconnu, parce que l'artisanat, avec tout son côté vraiment bâtiment, n'était pas connu. Mais le côté folklorique, en fait, j'ai grandi dedans, parce que mes parents étaient intermittents pendant longtemps. Mon père, il est comédien, il a fait beaucoup de théâtre de rue, et ma mère... a fait beaucoup de décors pour sa compagnie. Et puis quand j'étais enfant, on les a accompagnés sur les tournées au festival de théâtre de rue d'Aurillac, d'Avignon, etc. Donc j'ai grandi un peu dans cet univers de rocambolesque. Donc c'était assez génial. Donc en soi, c'est pas spécialement étonnant d'avoir un profil atypique de plus. Mais c'est plutôt le côté vraiment artisanat où il n'y a aucune créativité qui les a inquiétés, quoi, ce genre de choses. Qui a inquiété surtout ma mère. Mon père était plus serein ou me faisait peut-être confiance, je sais pas. Peut-être que maman connaissait aussi mieux la réalité de ce que ça allait devenir, je sais pas.
Vous êtes inquiet, vous, pour votre futur d'artisan, votre futur économique notamment?
Non. Non, j'ai jamais été... J'ai été inquiet avant mes 18 ans. Après, à partir du moment où j'ai su à peu près ce que je voulais faire, j'ai plus du tout été inquiet. J'ai trouvé quelque chose qui m'allait parfaitement et ça s'est toujours confirmé. J'ai jamais eu un moment de doute, en fait. J'ai toujours su que je voulais faire ça. Et les finances, enfin, j'ai jamais travaillé pour l'argent, quoi. Donc c'est... J'ai juste envie qu'elles suivent, mais je pense qu'elles suivront de manière correcte tout le temps.
Vous savez où vous serez dans 5 ans, dans 10 ans?
Sans doute à la Fondation, j'espère, encore, dans cet atelier Saint-Jacques. Mais j'espère pas seulement à la Fondation de Coubertin. J'espère qu'on fera des choses à côté avec Pierre-Yves. Voilà, on verra bien.
Confiant.
Oui. Je me pose plus de questions du tout, en fait. Hein.
Ça avance, ça roule tout seul.
Ouais, complètement. Je m'abandonne complètement à ce qui se passe. Je comprends pas tout. J'ai compris, je pense, l'essentiel au début, et puis maintenant, je laisse les choses se dérouler. Et tout se déroule à merveille. C'est bon. Ce podcast en a une belle illustration.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu le langage des tailleurs de pierre? Et moins on comprend les mots, plus on les aime, nous.
Ouais. On peut parler d'épanelage, on peut parler de boucharde, on peut parler de stéréotomie, on peut parler de gradine... C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Ça, c'est des noms d'outils, des noms de finitions et des noms de procédés de travail. Voilà, la boucharde, par exemple, c'est un marteau denté qui peut avoir 8 dents, 16 dents, 64 dents et qui vient travailler la pierre par écrasement. C'est le seul outil qui permet de travailler la pierre par écrasement, alors que les autres outils coupent plutôt la pierre. Les ciseaux viennent vraiment... la couper, la tailler, ce genre de choses, alors que là, on vient marteler la pierre. C'est un outil qui servait à l'écarissage des pierres dures, notamment, dans la région lyonnaise, entre autres. Voilà, c'est un outil un peu qui fait un peu barbare, mais qui sonne et qui peut donner des finitions très très belles, très très fines.
C'est quoi le Graal pour un tailleur de pierre?
Alors, il y a le Graal dont je rêvais quand je démarrais sur le Tour de France. Il y a le Graal avant le Tour de France, avant de se confronter à la matière. Il y a le Graal au début et puis le Graal à la fin, on va dire. Alors le Graal qui nous fait rentrer sur le Tour de France, moi, c'était les gargouilles ou ce genre de choses, ou vraiment des éléments patrimoniaux, architecturaux, avec toujours un peu de sculpture parce que ça fait rêver. Et puis, sitôt qu'on se confronte un peu à la matière et surtout à la réalité de son métier, qui n'est pas celle d'un sculpteur, mais bien un tailleur de pierre, avec tout ce que ça a de géométrique, eh ben, le Graal, ça devient plutôt des très belles pièces gothiques, comme par exemple un dais gothique, ce genre de choses.
Pardon, c'est quoi un dais?
Un dais, ça s'écrit D-A-I-S, c'est les sortes de gros chapeaux en pierre qui viennent abriter les sculptures sur les porches d'église.
D'accord.
Qui sont comme des sortes de Jérusalem céleste, où il y a des sortes d'architectures en perspective comme ça qui se tarabiscotent au-dessus du sein qui est en dessous avec des réseaux gothiques flamboyants, etc. Avec vraiment de la dentelle de pierre, en fait. Le dé gothique, notamment dans les régions un petit peu de Sens, de Troyes, ça va être des pièces avec énormément de dentelle sur laquelle on va passer 1200 heures, par exemple.
Ah oui.
Et ça, nos anciens ont eu la chance de tailler des très belles pièces... dans la région de Rouen ou à Cologne ou ce genre de choses, sur vraiment des belles cathédrales, quand il y a eu vraiment des très belles restaurations, et on a un peu moins la chance d'en faire. J'ai pu tailler 2-3 belles bases gothiques qui sont un petit peu dans ce jus-là, Et voilà, donc ça, ça a été des
parce que plus personne ne finance des restaurations de ce niveau. C'est pour ça ?
Parce que beaucoup de choses ont été restaurées aussi.
Ah oui, il n'y en a plus besoin.
Non, bah, peut-être qu'il y en a encore besoin, je ne sais pas. Après, c'est... j'ai pas assez de recul, j'ai pas le recul qu'ont nos anciens sur les politiques de restauration, la manière dont elles ont évolué, etc. Mais j'essaye de me dire que c'est plutôt toutes les pierres qu'on a changées qui maintenant seront changées dans 200 ans, j'espère. Mmh.
C'est vrai que c'est un rapport au temps assez exceptionnel, le rapport au temps d'intérieur de pierre.
Ouais. Oui, oui, c'est un peu toute notre... C'est peut-être une vanité, hein, mais il y a vraiment quelque chose de... qui nous parle dans le fait de poser une pierre pour 200 ans, 500 ans et pas pour 10 ans. La décennale, normalement, ça n'a pas vraiment de sens dans notre métier.
Mais pourtant, vous signez quand même des garanties décennales, j'imagine. Mais ça doit vous faire rigoler.
Pour certains ouvrages, ça nous fait bien rire. Oui,
ouais, c'est ça. Alors, je suis une fée des métiers d'art. Qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique ?
Moi, j'aimerais bien que la fée communique autour de la matière que je travaille, ou plutôt qu'elle arrive à transmettre aux autres ce que moi je vois dans la roche, parce que la roche, moi personnellement, c'est un matériau qui me fascine profondément. C'est-à-dire que la taille de pierre n'est pas quelque chose que j'ai voulu faire pour restaurer les monuments historiques. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était vraiment la roche dans toutes ces applications qui me passionnait, que ce soit pour du mobilier, pour de la marbrerie, pour des monuments historiques aussi, mais pour sans doute des bijoux, pour des parures, genre, je sais pas, pour tout et n'importe quoi. Et j'aimerais bien arriver à faire saisir aux jeunes toute la beauté de cette matière et tout ce qu'elle peut apporter à l'être humain, l'espèce d'enrichissement incroyable qui en ressort. Voilà, pour qu'on ait plus de jeunes en formation, que notre matériau ne soit plus marginal dans la construction comme il l'est maintenant.
D'accord, mais ça c'est quelque chose qui est déjà un peu en train de changer, on s'est dit.
Oui.
D'accord, on renforce.
Mais il y a vraiment une découverte de ce matériau et de son travail. Comme vous le disiez, dans sans doute les expériences que les jeunes peuvent en faire, etc. On se rend compte quand les jeunes qu'on accueille pour des journées portes ouvertes ou qui viennent chez nous pour faire tailleur de pierre ont généralement eu l'occasion de travailler la pierre une fois, par exemple, de taper dans un bout de caillou à l'occasion de je sais pas quel salon, et ont tout de suite eu une espèce de coup de cœur en découvrant le contact avec cette matière, son côté hyper dur, hyper ingrat et en même temps hyper généreux. Et voilà, moi c'est ce qui m'a parlé, ce qui me parle toujours, ce qu'il y a de fascinant dans ce matériau, et j'aimerais bien que ça s'accroisse.
Que ça se perpétue.
C'est ça.
Vous aimez transmettre parce qu'on est ici à la Fondation de Coubertin où il y a une mission pédagogique qui est vraiment intrinsèque à cet atelier. C'est quelque chose, c'est une dimension de votre travail que vous aimez ?
Ouais. Je me pose pas spécialement de questions au sujet de ça, je garde pas spécialement les petites techniques ou les 2-3... soi-disant secrets ou astuces que je pourrais avoir, j'essaie pas du tout de les garder, au contraire, je repense au beau podcast de Lison de Cône qui disait qu'elle formait absolument toute sa concurrence parce qu'elle avait fait renaître tout un savoir-faire, et je trouve ça admirable, et j'aimerais bien que tout le goût que je peux avoir pour la pierre utilisée dans la décoration, dans l'archi d'intérieur, dans ce qu'il peut y avoir de moderne et plus seulement dans le monument historique, ça soit communiqué aux jeunes et que ça fasse des petits, voilà.
Merci Victor Gadi.
Merci Raphaël.
Métiers rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiersrares. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétiersRares. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.
Ouais.
C'était très bien.
J'aurais aimé parler d'encore plein de choses.
Mais attends, on est là, on bouge pas.
Il y a plein de moments, tu vois, où j'ai lu des choses qui m'ont fait énormément de bien dans des bouquins quand j'étais ado, etc. Il y a un auteur qui s'appelle Hermann Hesse, par exemple, qui écrit beaucoup de livres d'initiation, qu'on lit beaucoup quand on est ado, etc. Je suis en train un petit peu de compiler tous ces textes-là. Je me dis que ça pourrait être intéressant de les mettre à disposition ou de communiquer autour de ça, tu vois, il y a tout un...
Complètement. C'est une très bonne idée de faire un ouvrage, un recueil en fait des textes qui toi t'ont guidé vers cette vie-là.
Ouais, il y a ça, et puis qui éclaire peut-être un rapport à la matière, ou qui éclaire un rapport au monde, dans lesquels les artisans peuvent se retrouver, dans lesquels les artisans peuvent puiser pour peut-être comprendre, j'en sais rien, un peu mieux ce qu'ils vivent.
Bien sûr.
Ou alors des regards d'écrivains un peu prophétiques, complètement visionnaires sur la matière, sur le rapport au monde, et qui correspondent à mille vies, qui correspondent à des vies d'artisans, mais à des vies de musiciens, à des vies de peintres, d'artistes, d'intellectuels, de tout ce que tu veux. Des textes qui font du bien ou qui sont...
Et ben ça, c'est un bon boulot aussi pour la fée, hein, c'est qu'on trouve un moyen d'éditer ce texte que tu édites, ce recueil.
Ouais, pourquoi pas? Est-ce qu'il faut les éditer, ne serait-ce peut-être déjà les communiquer? Je sais pas.
C'est ce que tu fais un peu sur ton Instagram?
Ouais, un petit peu, ouais. Mmh. Je l'ai fait pour deux textes. Je ne suis pas toujours le meilleur des communicants, parce que j'aime bien être dans le fond plutôt que toujours dans la communication, mais je prends aussi beaucoup de plaisir à faire découvrir ces choses-là. Instagram, c'est un côté passionnant et fascinant, et je ne sais pas si le support textuel est le meilleur pour ça.
Moi, je pense que c'est une façon très intéressante d'aller détourner l'outil, ce que tu fais.
Ouais.
De poster une page, on s'en fout de la qualité de la photo. Moi, à chaque fois, j'achète le bouquin que tu postes. mais ouais, je trouve que c'est une belle façon de le faire qui te ressemble, en fait.
Ouais, ouais. Et bah tant mieux, parce que de toute façon, tu vois, mes études de philosophie là m'ont pas permis d'être donné des cours ou de pouvoir avoir un niveau d'érudition pour donner des cours sur tel ou tel auteur. Par contre, ça m'a quand même fait découvrir des textes merveilleux dans lesquels j'ai puisé trois paragraphes ou trois pages qui m'ont fait énormément de bien. Mmh. et qui pourraient en faire à d'autres aussi. Ouais.
Écoute, moi je suis cliente en tout cas, ça c'est sûr.
Parfait.
J'en connais deux, trois autres.
Trop bien.